l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Au pays du matin clair, on respire mieux depuis deux semaines parce que le gouvernement sud-coréen a levé l'obligation du port du masque en plein air depuis le 2 mai dernier et ce sur fond du recul du Covid-19. Ainsi, certains citoyens ont retrouvé la liberté et leur joie de l'enlever lors de la promenade ou de la randonnée. Mais ce n'est pas au goût de tout le monde. Le port du masque obligatoire à l'intérieur est devenu un véritable casse-tête pour les commerçants, et ce notamment à cause des clients qui entrent dans leur magasin sans le remettre. En témoigne le patron d'un restaurant situé dans l'arrondissement de Paldal de la ville de Suwon au sud de Séoul. Depuis le début du mois, il doit faire face à certains consommateurs qui s'approchent du comptoir ou déambulent dans le restaurant le visage découvert. Lorsqu'il leur rappelle la consigne selon laquelle le masque est toujours obligatoire à l'intérieur, cela les froisse. C'est sans compter aussi la méprise. Une personne âgée a rétorqué à notre restaurateur comme suit. « J'ai cru qu'on s'était débarrassé du masque une bonne fois pour toutes. Je n'en ai même pas un sur moi. » Et ce n'est pas un cas isolé. Et les commerçants sont nombreux à craindre d'écoper d'une amende salée en cas de non-respect de la mesure sanitaire pour la clientèle. En témoigne aussi la responsable d'un café à proximité du restaurant dont je viens de parler. Il déduit des comportements de ses clients que les gens semblent croire que remettre le masque en entrant dans un café ou restaurant n'est plus nécessaire puisqu'ils doivent de toute façon l'enlever pour consommer. Comme il est impossible de refuser les consommateurs non masqués, notre patron de café a récemment acheté une grande quantité de masques jetables pour en distribuer au cas où. Ainsi, il met tout en place pour éviter une amende. Par contre, d'autres commerçants se sont résignés. C'est le cas pour un certain Kim, âgé de 59 ans, qui tient un restaurant dans l'arrondissement de Yeonsu à Incheon. À proximité de ses locaux, il y a un grand jardin public. Certains citoyens s'y promènent le visage nu ou avec le masque baissé jusqu'au menton. Ils entrent ensuite dans le restaurant de Kim tels qu'ils sont. Comme le patron est trop occupé pour contrôler le port du masque à l'entrée, il a préféré fermer les yeux sur les réfractaires. D'ailleurs, lorsqu'un client à visage découvert se déplace à l'intérieur, par exemple pour aller aux toilettes, cela ne semble pas gêner les autres consommateurs. Bref, l'ambiance a changé. Les citoyens craignent de moins en moins d'être contaminés au Covid-19 qu'autrefois. Cependant, la précaution est toujours de mise. Il faut toujours se doter d'un masque à l'intérieur et également pour assister à un quelconque rassemblement de 50 personnes ou plus, même organisé à l'extérieur. Trouver un taxi, ce n'est pas toujours évident dans une ville métropolitaine comme Séoul. Heureusement, il y a une solution. À partir de cette semaine, il est autorisé de partager un taxi en Corée du Sud. Ainsi, le chauffeur peut faire monter un ou une autre cliente dans son véhicule déjà occupé par un passager. Toutefois, deux mesures de précaution sont imposées par cette initiative. Il faudra utiliser une application dédiée à cette pratique et seules les personnes de même sexe peuvent partager un taxi. Ça se passe donc comme suit. Vous commandez un taxi à partager via une plateforme numérique proposant un tel service. Si votre itinéraire correspond à 70% à celui du passager déjà occupant le taxi, vous pouvez monter dans ce véhicule à condition que vous et le passager aient le même sexe. Et financièrement, c'est très intéressant puisque vous payez 30 ou 40% de moins cher que d'habitude. Bref, ce service est possible uniquement entre deux hommes ou entre deux femmes. Or, ce principe est remis en question. Un prestataire de réservation de taxi a fait entendre sa voix. Ils ne récoltent pas d'informations sur le sexe de leurs clients. Ils se trouvent donc dans l'impossibilité de réunir ses clients selon le sexe. Ainsi, il ne peut pas fournir le service de taxi partagé et il a souligné que la restriction liée au sexe va à l'encontre de la norme internationale. Une vive polémique a alors éclaté au sein de la commission chargée de la réforme des réglementations. Celle-ci y voit finalement une restriction excessive qui n'existe pas à l'étranger. Ainsi, elle a recommandé de recevoir ce dossier. Et les clients de taxi, qu'en pensent-ils ? Eh bien, le gouvernement a effectué un sondage. Selon les résultats, 52,5% des personnes interrogées sont favorables pour le principe actuel, donc celui d'autoriser aux clients de même sexe de partager leur taxi, soit 5 points de plus que la part de ceux qui s'y opposent. Par ailleurs, l'écart se creuse davantage chez les femmes, à savoir de 12 points. Par exemple, une certaine Kang souligne qu'une femme a peur de partager un taxi avec un homme inconnu la nuit et qu'elle se sentira plus à l'aise et plus en sécurité avec une femme inconnue. Un certain Jin contredit une telle inquiétude. Selon lui, le pays est bien équipé pour assurer la sécurité, comme les caméras de surveillance installées dans les rues ou la boîte noire embarquée dans le véhicule. Le gouvernement a déjà pris sa décision. Il va maintenir son principe actuel, mais toutefois, la polémique risque de durer davantage, parce qu'il est toujours difficile de trouver un taxi la nuit à Séoul depuis la crise du Covid-19 et que ce problème prendra du temps pour être résolu. D'ailleurs, la commission de réforme des réglementations a recommandé de réexaminer le dossier d'ici 2 ou 3 ans. Et puisque je viens de parler du taxi, je vous propose d'écouter une chanson sur l'invitation à un voyage nocturne en taxi qui se présente comme un jeu de séduction. Pour la pause principale, écoutons Mr. Taxi, interprété par Girl Generation.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul le jour en compagnie de Franck Atlani ce mardi 17 mai 2022. Certains internautes sont mécontents parce que le bouton « En colère » a disparu sur Naver, le plus grand portail internet de Corée du Sud. Un certain Kim, salarié âgé de 51 ans, a renoncé à son habitude de lire des actualités sur Naver. Récemment, en lisant un article sur la réforme controversée du parquet, il sentait la colère monter en lui. Il a donc cliqué sur le bouton « En colère ». Mais en fait, il le croyait. Un instant après, il a réalisé qu'un nouveau bouton dit « Analyse excellente » est proposé à la place habituelle de celui « En colère ». Il a aussitôt annulé son clic. Il a été encore plus furieux à cause de la disparition de l'émoticône. Il n'avait plus de moyens pour exprimer son émotion sur les actualités. Même constat avec une autre nouvelle. Il y a une dizaine de jours, on a appris le décès inattendu d'une immense actrice, Kang Soo-yeon, âgée de 55 ans, qui a été victime d'une hémorragie cérébrale foudroyante. Un internaute a mis un commentaire en bas de l'article et son texte a récolté le plus grand nombre de partages du même avis. Voici son message. C'est une nouvelle vraiment très triste. Je suis abasourdi de ne pas pouvoir appuyer sur le bouton triste. La plateforme propose de nouveaux boutons. Information utile, très intéressant, avis partagé 100%. Mais ils se foutent de nous ou quoi ? En fait, la nouvelle politique de Naver a suscité du dépit. En 2017, la plateforme internet a introduit un système de boutons permettant aux internautes d'exprimer leurs émotions sur les articles de journaux. 5 émoticônes étaient proposés. J'aime, émouvant, triste, en colère et curieux de savoir la suite. Le plus grand portail internet sud-coréen les a supprimés le 28 avril dernier et il les a remplacés par une nouvelle série de 5 boutons, à savoir information utile, très intéressant, avis partagé 100%, analyse excellente et encourage à donner la suite. Depuis, les internautes sont nombreux à vouloir récupérer l'ancienne version et notamment le bouton en colère. Ils accusent Naver de les empêcher d'exprimer des émotions négatives et de porter atteinte à leur liberté d'expression. La plateforme en ligne a justifié son alternative. Il s'agit d'encourager les internautes à recommander des articles de bonne qualité rédigés avec grand soin. D'ailleurs, le bouton « En colère » était très ambigu. On ne savait plus à qui s'adressait la colère exprimée. Portait-elle sur le texte ou bien était-elle destinée au journaliste qui a écrit l'article ou encore au journal qui l'a publié? La situation pouvait être très confuse. Chez les spécialistes, les avis sont partagés. Selon les opposants d'une telle démarche, il n'est pas normal pour les internautes de se voir privés de leurs moyens d'exprimer leur opinion sur les actualités. Et il vaudrait mieux proposer une autre alternative permettant de manifester des émotions plus variées et plus nuancées. Mais d'autres ne l'entendent pas de cette oreille. L'espace de commentaires en ligne ne remplit plus une fonction saine de former l'opinion publique. Il est devenu un simple exutoire où une petite minorité d'usagers déverse leur colère sur un coup de tête ou bien attaque violemment ceux qui ne partagent pas leur avis. Quelques-uns vont encore plus loin en déclarant qu'il serait préférable de carrément supprimer la fonctionnalité des commentaires. Et si un Disney World s'implantait en Corée du Sud? Une telle idée serait-elle réalisable? Une rumeur disait que la province de Gyeongsang du Nord pourrait accueillir un nouveau site de ces fameux parcs d'attractions de la marque américaine, ce qui a fait rêver les amateurs de ce loisir. Mais la préfecture de Gyeongsang du Nord a démenti officiellement cette rumeur. Elle a ajouté quelques précisions. Elle mène certes des concertations avec une entreprise d'investissement chinoise et un agent spécialisé pour attirer éventuellement des capitaux dans la création d'un nouveau Disney World, mais elle n'a même pas contacté le siège social américain de la compagnie Walt Disney, ni le Disneyland de Shanghai en Chine, qui détient le droit d'exclusivité pour les affaires en Asie. Actuellement, elle est en attente d'une lettre officielle de la part de la société américaine pour savoir si celle-ci envisage de créer un nouveau parc en Corée du Sud. Un responsable de la préfecture de Gyeongsang du Nord a déclaré que ce serait une véritable aubaine si la province réussissait à créer un nouveau parc de loisirs de la marque mondialement célèbre. Ce démenti a déçu certains habitants sud-coréens. C'est le cas d'une certaine John, âgée de 29 ans. Lorsqu'elle était étudiante, elle a eu l'occasion de se rendre à Disneyland Paris, et c'était génial. John s'est dite dépitée, d'autant plus qu'elle s'était emballée en entendant dire qu'un Disney World devrait voir le jour dans son propre pays. Même son de cloche chez un certain Lee, âgé de 24 ans. Il aimerait bien visiter un de ces fameux parcs à thème, mais il n'a pas le budget pour voyager à l'étranger pour cela. Donc il comptait sur la création d'un nouveau Disney World en Corée du Sud. Il regrette bien évidemment que cela reste une simple rumeur. Mais certains soulignent qu'il est impossible d'implanter un Disney World en Corée du Sud. Une précision, les parcs à thème de Disney se déclinent en deux sortes, Disney World et Disneyland. Le premier englobe quatre parcs à thème, un centre de village de vacances, un terrain de golf, entre autres, qui s'étend sur un site de 101 km², soit le plus vaste au monde et l'équivalent d'un sixième de la superficie de Séoul. Actuellement, il existe un seul et unique Disney World dans le monde à Orlando, en Floride, aux États-Unis. Dans tous les cas, la Corée du Sud ne dispose pas des conditions réunies pour en accueillir un. Le second, Disneyland, est une dimension réduite de Disney World. D'ailleurs, l'Asie en compte déjà trois. Ainsi, la région concentre la moitié des sites de parcs à thème de l'entreprise Walt Disney. En effet, il en existe six dans le monde entier. À Orlando, en Floride, à Anaheim, en Californie, en région parisienne, en France, à Tokyo, au Japon, et à Shanghai, en Chine, ainsi qu'à Hong Kong. Un nouveau site de plus en Corée du Sud? L'idée semblerait peu réalisable. Quel est le meilleur parc d'attractions au monde? Eh bien, pour certains, il est nommé une rencontre amoureuse. Avec un accès illimité pour profiter à volonté de toutes les attractions nuit et jour, c'est ce que chante Baekhyun, membre du groupe EXO, dans son tube intitulé « Parc d'attractions ». Écoutons-le donc pour la pause musicale. Le mois de mai, c'est la saison de floraison de l'acacia. On peut admirer la beauté des grappes de fleurs blanches pendantes au-dessus de nos têtes dans les jardins ou forêts. Une balade olfactive garantie. Cela devrait réjouir les apiculteurs, parce que c'est en principe synonyme de belles récoltes de miel. Or, les apiculteurs sud-coréens sont nombreux à se dire dépités. C'est le cas pour un certain Jang, âgé de 65 ans, qui pratique l'apiculture depuis 10 ans, en bas d'une montagne dans les environs de la ville de Cheongju, de la province de Chungcheong du Nord. il ne peut que soupirer en ouvrant ses ruches. L'an dernier, au printemps, le mauvais temps a prédominé, entraînant une mauvaise récolte. Cette année, un écart important des températures entre le jour et la nuit a empêché les fleurs de produire du nectar. Par conséquent, il y en a moins à puiser dans les fleurs pour les abeilles. Mais la situation est moins critique pour Zhang que celle d'autres éleveurs. Par exemple, un certain Xin, âgé de 67 ans, qui pratique l'apiculture pas loin de là, a presque laissé tomber. En effet, il a eu une très mauvaise surprise en ouvrant ses ruches en février dernier pour réveiller les abeilles de leur sommeil hivernal. Xin chérissait attentivement ses 200 ruches. Or, il a découvert que 120 d'entre elles étaient désespérément vides. Toutes les abeilles se sont évaporées. En général, 20 000 abeilles vivent dans une ruche. Donc un total de 2,4 millions d'abeilles sont portées disparues. Mais où sont-elles donc toutes passées ? Notre apiculteur a une hypothèse. Si ces abeilles étaient mortes de faim ou attaquées par un virus, leurs cadavres seraient restés à l'intérieur des ruches. Mais aucune trace. La seule piste possible avancée est la suivante. En hiver dernier, le pays a connu une température anormalement élevée. Les abeilles, très sensibles à la température, seraient sorties de leur habitat en méprenant la saison. Et elles auraient été étourdies par le froid et elles se seraient perdues sur le chemin du retour. Xin estime que sa récolte risque de tomber à moins de 20% de la moyenne annuelle. Les cas similaires ne manquent pas. La préfecture de Chongqing du Nord a effectué un sondage auprès des 2705 apiculteurs de sa région en mars dernier. Selon les résultats, presque 50% d'éleveurs ont constaté la disparition de leurs abeilles. En général, leur nombre baisse pendant le sommeil hivernal. Mais cette année, son ampleur n'est pas comparable à celle d'autrefois. Les collectivités locales envisagent d'apporter un soutien aux apiculteurs victimes de cette mésaventure en leur accordant par exemple une allocation à l'achat de nouvelles ruches. Mais elles ont du mal à allouer un budget dédié car la disparition d'abeilles n'est pas reconnue comme une catastrophe qui fait l'objet d'indemnisation. Une bonne nouvelle pour les amoureux des promenades en plein air au milieu des fleurs. Environ 100 millions de fleurs de pavot se sont épanouies dans le vaste champ Jikton, situé dans la commune de Bukchon du canton Hadong de la province de Gyeongsang du Sud. Ce site est plutôt connu pour la floraison de cosmos ou de sarrasin qui attire la foule en automne. Il y a même une coopérative horticole dédiée à ces deux fleurs dans cette commune. Ce printemps, elle a transformé son étendue en champ de fleurs de pavot et elle a décidé, en concertation avec la préfecture de Hadong, de rendre accessible ce jardin au public du 13 au 22 mai, jusqu'à ce dimanche donc. Selon une presse locale, les 100 millions de fleurs de pavot sont pleines de vigueur et présentent une grande somptuosité grâce à une forte différence des températures entre le jour et la nuit cette année. Sachez qu'en Corée du Sud, la fleur de pavot est surnommée Yang Quibi parce qu'elle est considérée comme aussi belle que Yang Quifei, à savoir la concubine de l'empereur Xuanzang de la dynastie chinoise des Tang, qui incarne une beauté sans pareil selon la légende. La coopérative en question de Bukchon a aménagé son vaste champ en 5 couleurs. En effet, 5 plantes de différentes coloris sont cultivées. Les fleurs de pavot de couleur rouge et rose, les fleurs de colza, jaune et pourpre, ainsi que les fleurs de gysophile, blanche. S'y ajoute aussi un sentier de roses agencé sur la zone surnommée le chemin pour la demande en mariage. En raison du Covid-19, la préfecture a préféré ne pas organiser de cérémonie officielle. Toutefois, elle a programmé une représentation de drones et des petits spectacles de rue. Elle espère que les citoyens puissent trouver du réconfort dans cet immense champ fleuri. Lorsqu'on est assis sur un champ de fleurs, on peut être émerveillé par la beauté des fleurs épanouies. Et cela rappellera forcément celui ou celle qu'on aime. C'est ce que disent les paroles de la chanson intitulée « Sur un champ de fleurs » interprétée par Jo Kwan-woo. Je vous propose de l'écouter avant de vous laisser entre les mains de Wang Hyang pour Saveur du terroir. Thank you.
Le mouk, qui est un plat à base de farine de différentes céréales, est consommé de diverses manières au pays du matin clair. Il est bien sûr préparé en tant que plat d'accompagnement de repas, mais il s'agit également d'un des menus les plus prisés après une randonnée à la montagne. Comme la semaine dernière, Saveur du terroir vous fera découvrir le mouk et ses vertus. Les glands de chêne, qui sont interdits de cueillir abusivement actuellement, étaient vraiment très répandus dans la péninsule coréenne depuis des siècles. Si on regarde les archives, ils étaient même consommés dans les sites archéologiques de l'âge du bronze. Dans la ville de Gwangju de la province de Chungcheong du Sud, il y a un petit village appelé Yugumaeul dans lequel le totori-mouk est considéré comme un aliment précieux. Ce village, qui cultive des champignons, conserve la tradition de préparer cette gélatine à base de glands de chêne avant le début de la saison des grands travaux. Les vieilles femmes du village partagent leur recette avec les jeunes femmes et tout le monde apporte un coup de main à tour de rôle pour la préparation. On fait tourner les glands de chêne dans un broyeur en pierre, puis on fait cuire la poudre ainsi obtenue avec de l'eau. L'important, c'est de remuer continuellement pour que le mouk devienne bien consistant. Ensuite, on le verse dans un moule et on le laisse durcir. Vu le processus de la préparation demandant un soin particulier, le mouk est souvent qualifié « produit de dévouement ». Selon les habitants, un morceau de totori mouk trempé légèrement dans la sauce à base de soja, de poudre de piment rouge et d'huile de sésame est une entrée qui permet d'aider la digestion. Pour les travailleurs dans les champs, on prépare souvent le totori-mouk konguk dans du bouillon de soja conservé frais. On trempe le mouk coupé en tranches. Il s'agit d'un encas fortifiant, particulièrement rafraîchissant et nutritif. Dans un autre village de la ville de Gwangju, on nous fait découvrir le pammuk. Pour préparer la gélatine de châtaigne, on commence par éplucher les fruits. On les coupe en petits morceaux avant de les faire broyer et passer dans un tissu de coton. On fait cuire le liquide bien laiteux, vu la haute teneur en glucides, en le remuant. Enfin, on le fait durcir dans un moule durant une journée. D'une couleur brune, il s'agit d'un plat riche en substances nutritives essentielles. On peut en manger tel quel, mais on peut également l'ajouter dans divers autres plats. À titre d'exemple, lorsqu'on prépare la soupe de merlan séchée hwangtaekguk, on ajoute le pammuk malaengi, le pammuk coupé en tranches fines et séchées, ce qui la rend encore plus délicieuse. Quant au pammuk malaengi turuchigi, la viande de porc sautée garnie de divers légumes et de pammuk malaengi, qui est assaisonné de manière pimentée et douce, il s'agit d'un plat qui permet d'apprécier le mariage entre la viande et le pammuk. Déplaçons-nous dans le district de Chung-gu, situé dans le centre de la capitale Séoul. Madame Kim, chef et chercheuse en cuisine traditionnelle coréenne, nous accueille avec le Cheongpo-mouk. Pour concocter cette gélatine de haricot mungo, on commence par extraire la fécule de haricot mungo avec la base du liquide obtenu de céréales broyées. Ensuite, on mélange la fécule et l'eau avant d'assaisonner légèrement avec de l'huile de sésame et du sel. On le fait durcir dans un moule durant quelques heures et cela devient une gélatine blanche à texture ferme. Ce cheongpo-mouk, qui ressemble beaucoup à la gélatine de soja tubu, est également surnommé doktubu et se caractérise par une saveur fade et un parfum léger. Le puntang est un plat de cheongpo-mouk que les familles nobles consommaient comme délice. On prépare des nouilles à base de cheongpo-mouk que l'on trempe dans du bouillon de bœuf. On le garnit simplement d'un œuf à demi-cuit et de quelques morceaux de ciboule. « Est-ce que vous avez aimé notre voyage culinaire à la recherche de mou? Mangez bien et restez en bonne santé.
Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yoon-ji à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hong-joo à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée.